France Musique. Musicopolis. Hollywood, l'âge d'or de la musique de film. Chapitre 3, les compositeurs, un triumvirat venu d'Europe. J'ai parlé dans les deux premiers chapitres de cette série de plusieurs aspects de la musique de film à Hollywood pendant cet âge d'or que je situe dans les années 30 et 40 du XXe siècle. Il a été question du passage problématique du muet au parlant et de la place de la musique dans les films en général, mais aussi dans les dessins animés et les comédies musicales. J'ai évoqué quelques noms de compositeurs et je voudrais à présent m'arrêter sur trois d'entre eux qui ont une particularité commune. Ils sont venus d'Europe centrale où ils avaient été élevés dans la grande tradition musicale germanique. Les trois compositeurs dont il sera question dans ce chapitre sont, par ordre d'arrivée à Hollywood, Max Steiner, Erich Wolfgang Korngold et Franz Waxman. Chacun des trois a participé à l'établissement du canon hollywoodien de la musique de film, ce qu'on pourrait appeler le style Hollywood. Et si je vous propose la musique de Mahler pour commencer ce chapitre sur trois compositeurs européens qui ont forgé le style hollywoodien, ce n'est pas un pur hasard, vous vous en doutez. Le premier de notre triumvirat est donc Max Steiner, né à Vienne en 1888. Il est l'unique enfant d'une famille d'artistes et d'entrepreneurs de spectacle. Son grand-père, qu'il n'a pas connu, a été le directeur du Theater an der Wien. C'est lui qui a créé dans son théâtre les opérettes de Johann Strauss, en particulier la Chauve-souris. Son père est impresario, directeur de théâtre et inventeur. On lui doit la grande roue du Prater. Sa mère a été danseuse dans certaines productions théâtrales de son grand-père. Le petit Max grandit dans l'environnement de la Vienne musicale de la fin du 19e et du début 20e siècle, avec dans l'oreille aussi bien les opérettes de Johann Strauss et d'Offenbach que la musique symphonique des Richard Strauss ou Gustav Mahler. Justement, enfant prodige, avant même d'entrer à l'Académie impériale de musique, il reçoit en privé les conseils de Mahler et du chef Felix Weingartner. Puis à l'Académie, il aura d'autres professeurs éminents, notamment le compositeur Robert Fuchs et le violoniste Arnold Rosé, premier violon du Philharmonique de Vienne et beau-frère de Mahler. Le petit Max Steiner joue de plusieurs instruments, il compose et il dirige. Il a 12 ans lorsque son père l'autorise à diriger dans son théâtre une opérette américaine, The Belle of New York, qui marche très bien. Un peu plus tard, il compose lui-même une opérette, La Belle Fille Grecque, mais son père ne veut pas la monter. Max la propose à un autre théâtre qui va la prendre et l'ouvrage va rester à l'affiche pendant une année entière. En 1906, à 18 ans, on lui propose de venir diriger La Veuve Joyeuse de Franz Lehár à Londres. Il va y rester 8 ans, il va diriger dans tous les théâtres londoniens à la mode. Au bout de 8 ans à Londres, au moment de la déclaration de la guerre de 14, Max Steiner, le Viennois, est soupçonné d'entente avec l'ennemi. Il est arrêté et il ne doit qu'à l'intervention d'un de ses fans, le duc de Westminster, d'être libéré. Il part aussitôt pour New York où il arrive avec $40 en poche, tout ce qu'il possédait ayant été confisqué. Il se fait vite engager à Broadway où il va passer des années à arranger, orchestrer et diriger de nombreuses opérettes. L'une des dernières opérettes sur lesquelles Max Steiner travaille à Broadway s'appelle Rio Rita, musique de Harry Tierney. Lorsqu'en 1929, il est question d'en faire un film à Hollywood dans les studios de la RKO, tout naturellement, Tierney suggère le nom de Steiner. Le chef de la production du studio vient écouter ce qu'il sait faire et il est bluffé par ses dons d'orchestrateur. Voilà quelqu'un qui pourrait être utile. Dès le lendemain, le contrat est signé. La crise de 29 touche même Hollywood. Beaucoup de musiciens ont été licenciés, mais Steiner est resté, avec un salaire diminué et très peu de moyens de production. Par hasard, comme je l'ai raconté dans le premier chapitre de cette série, on lui demande la musique d'un western parce qu'il est le seul compositeur disponible. Après le succès du film, où pourtant son nom ne figure même pas au générique, sa carrière va réellement commencer. Les films vont s'enchaîner. King Kong, dont j'ai parlé dans le premier chapitre, est le premier film qui montre à quel point la musique peut apporter une dimension supplémentaire à ce qu'on voit à l'écran. Et justement, dans les premières années de sa carrière, Steiner est fréquemment appelé pour ajouter de la musique au dernier moment, lorsqu'à la première projection d'un film devant les directeurs du studio, on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose, du rythme ou un peu de pathétique, ou encore de la tension au bon moment. Pour le film The Informer, le mouchard, John Ford, ayant été auparavant victime de plusieurs mésaventures de dernier moment, a pris soin d'engager Steiner avant le début du tournage et de lui envoyer son scénariste pour discuter de ce qu'il voulait. Avec la musique de The Informer, Max Steiner a obtenu son premier Oscar. Et bien sûr, dans la deuxième moitié des années 30, il est extrêmement demandé comme compositeur. Pendant qu'il est à la RKO, il participe à plus de 30 films par an. Mais les autres studios voudraient bien l'avoir. David O. Selznick, par exemple, le producteur, ne veut faire ses films qu'avec Steiner. Mais Selznick passe longtemps sur chaque film, ça ne suffit pas pour Steiner, habitué à une cadence infernale. Il passe un contrat avec le studio des frères Warner qui lui permet, lorsque Selznick le demande, d'aller travailler pour lui. À la Warner, Steiner travaille sur des films très variés, une moyenne de 8 par an, avec des partitions symphoniques de larges proportions. Beaucoup de films d'aventure avec Errol Flynn, mais ça n'est pas vraiment son truc. Il préfère les films romantiques avec Bette Davis. Ils en feront 18 ensemble. Et l'actrice dira « Max comprenait mieux l'essence du drame qu'aucun d'entre nous ». En 1939, Steiner est submergé de travail. 11 films pour les studios Warner. Aussi, quand Selznick le demande pour un très long métrage, Steiner le fait patienter. Jusqu'au moment où Selznick menace d'engager quelqu'un d'autre comme co-compositeur. Voilà qui décide Steiner à s'y coller. La musique des 3 heures d'Autant en emporte le vent a occupé Max Steiner pendant 12 semaines, Il a composé 16 thèmes principaux pour les différents personnages ou lieux et environ 300 petits segments musicaux. Les différents thèmes subissent de nombreuses transformations et ils se mélangent aussi à des chansons populaires pour la couleur locale, de manière à donner plusieurs niveaux d'interprétation de la psychologie des personnages ou des situations. Deuxième compositeur de notre triumvirat, Eric Wolfgang Korngold. Tout comme Max Steiner, Korngold, né en 1897, a été éduqué à Vienne, dans une famille de musiciens, mais d'un tout autre genre. Le père d'Eric est Julius Korngold, connu comme l'un des critiques musicaux les plus durs de Vienne et même d'Autriche. Le petit Eric est très très précoce. Il compose à 7 ans, il étudie avec Robert Fuchs, comme Steiner. Mahler, qui le considère comme un génie, l'envoie à 10 ans prendre des leçons avec le compositeur Zemlinsky. À 11 ans, Eric Wolfgang compose un ballet d'Herr Schneemann, le bonhomme de neige, donné à la cour de Vienne, puis dans une quarantaine de théâtres allemands et autrichiens. La partition a été montrée à de nombreux musiciens professionnels qui se sont tous accordés pour dire qu'elle n'avait vraiment rien d'enfantin dans l'écriture. Ce que Korngold aime par-dessus tout, c'est composer des opéras. Il écrit les premiers, de courts ouvrages en un acte, à 16 et 17 ans. Ils sont joués partout en Europe. Mais son plus grand succès sera Die Totenstadt, la ville morte, représentée en 1920, partout en Europe et jusqu'aux États-Unis, au Metropolitan Opera de New York. Avec son ami le metteur en scène Max Reinhardt, Korngold participe à de nombreuses productions théâtrales. Il est célèbre, il passe son temps à diriger, à composer, pour le théâtre, pour l'opéra, et aussi de la musique de chambre, et en fait, tout ce qu'il a envie de composer. Il est nommé docteur honoris causa par le président autrichien, et il donne des cours à l'Académie de musique de Vienne. Lorsque Reinhardt lui propose de faire un arrangement de la musique de Mendelssohn pour un film d'après « Le songe d'une nuit d'été » de Shakespeare, à Hollywood, il embarque pour le Nouveau Monde avec son épouse et ses deux jeunes fils. De gros moyens sont mis à sa disposition et son séjour se passe merveilleusement bien. Rentré à Vienne, il est à nouveau sollicité par Hollywood et va cette fois-ci accepter d'écrire la musique pour un film d'Errol Flynn, Captain Blood. C'est seulement à la signature du contrat qu'on lui annonce qu'il a 3 semaines pour mener sa tâche à bien. Il comprend alors pourquoi les compositeurs de Hollywood ont toujours besoin d'orchestrateurs.
A ship to starboard! He may be a pirate! well then, sail on, little ship, back to England, where we may never go. And you'll never know how close you came to not getting there.
Après le succès de Captain Blood et les demandes pressantes des Warner, Korngold ne veut pas signer de contrat pour Hollywood. Il préfère faire des allers et retours entre Vienne et la Californie. Certes, il se donne à fond et il ne boude pas son plaisir lorsqu'il doit écrire une musique de film, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est ce qu'il fait à Vienne, composer des opéras. D'ailleurs, lorsqu'il est à Hollywood, c'est aussi comme ça qu'il conçoit ses partitions pour le cinéma, des opéras sans chant. L'Oscar qu'il remporte pour la musique du film Anthony Adverse de Mervyn LeRoy ne suffit pas à décider Korngold à s'installer à Hollywood. C'est seulement au moment de l'annexion de l'Autriche par Hitler et du risque qu'il y aurait pour lui et sa famille à rester à Vienne qu'il se résout à emménager pour de bon aux États-Unis. Il va obtenir des conditions très avantageuses, des studios, plus de temps qu'on en accorde généralement pour les partitions de films et il va continuer à composer pour le cinéma jusqu'en 1947. Le troisième homme de notre trio de compositeurs venus d'Europe est Franz Waxman, le plus jeune des trois. Né en 1906 en Silésie du Nord, alors en Allemagne, il a fait des études de musique contre la volonté de son père. À 17 ans, il entre au conservatoire de Dresde et ça marche tellement bien qu'on l'envoie à celui de Berlin. Lui aussi est donc éduqué musicalement dans le grand bain de musique romantique germanique. Néanmoins, il connaît bien aussi le jazz et les musiques populaires puisqu'il gagne sa vie en jouant du piano le soir dans des clubs, notamment avec les Weintraub Syncopators.
Wenn du bei mir bist, und wenn du bei mir bist, dann wird die ganze Welt vor Liebe auf den Kopf gestellt. Wenn wieder Blumen blühen und ich viel Geld verdien, dann kauf ich Sonnenschein und schick ihn dir per Rohrpost ein.
In der Straßenbahn fangen wir zu küssen an.
Avec les Weintraub Syncopators, Franz Waxman rencontre Friedrich Holländer, pianiste et compositeur, qui lui présente le chef d'orchestre Bruno Walter, qui le prend sous son aile musicale, et aussi le réalisateur Eric Pommer, qui va tirer parti des talents de Waxman en lui confiant l'orchestration des chansons de son film « L'Ange bleu » avec Marlène Dietrich.
Ich bin die Fische Lola, der Liebling der Cézanne. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Da will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und dreh ihm aufs Pedal.
Franz Waxman est très content de faire des arrangements, mais il préfère composer. Il a la chance d'être demandé par Fritz Lang pour son film « Lilium ». La même année, après avoir été roué de coups dans une rue de Berlin par des sympathisants nazis, il décide d'émigrer, d'abord à Paris, puis aux États-Unis, où il est réclamé par deux autres Allemands, Eric Pommer et Samuel Wilder, plus connu sous son nom américain, Billy Wilder. Ensemble, ils vont donner une version cinématographique de la comédie musicale « Music in the Air ». Et juste après, les studios Universal l'engagent pour écrire la musique d'un film d'horreur, « La fiancée de Frankenstein ». a entendu là la musique de Franz Waxman pour le générique du film La fiancée de Frankenstein de James Whale pour les studios Universal. Avec d'abord l'angoisse terrible qui va si bien aux images d'orage et de vent en noir et blanc et au sinistre laboratoire où va être créée la fiancée, puis le thème de l'amour du monstre pour sa promise. Avec cette partition, Franz Waxman a créé un nouveau genre de musique pour les films d'horreur. Les films s'enchaîneront ensuite de toutes sortes. Par exemple, Rebecca d'Alfred Hitchcock en 1940.
There is mystery, love and laughter in Rebecca.
Il y a du mystère, de l'amour et du rire dans Rebecca, le film jusqu'ici insurpassé avec sa romance pleine de suspense. Avouez qu'en entendant la musique de cette bande-annonce, on est déjà un peu dans le film, dans son ambiance pleine de glamour. Ensuite, ce seront pour Waxman de nombreux autres films, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ou encore Sunset Boulevard et Une place au soleil, les deux films qui lui vaudront un Oscar. Mais pour terminer notre chapitre, revenons à La fiancée de Frankenstein. Ami?
Friend?
Ami?
She hates me.
Elle me hait.
Like others.
Comme les autres.
Under the door.
Henry, ouvre la porte.
Get back.
Va-t'en, va-t'en. Je veux que tu viennes.
I can't leave them, I can't.
Je ne peux pas les laisser, je ne peux pas.
Go. You live.
Oui.
Go.
Allez, vous, vivre. Allez.
You stay.
Vous restez.
They belong dead.
Vous appartenez à la mort. La fin de La fiancée de Frankenstein, film de James Whale de 1935, musique de Franz Waxman. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Dans le quatrième épisode de cette série, nous essaierons de pointer ce qu'on attend d'une musique de film et comment elle est conçue par les compositeurs. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Lucas Derode pour le mixage et Léa Gramusset pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.